Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est le Proton se rebiffe. Une émission sur les savoirs scientifiques et notamment l'écologie. Bonsoir. Ce soir, le Proton se rebiffe va parler d'un livre absolument excellent qui s'appelle « Renoncer au voyage, une enquête philosophique ». C'est de Juliette Morris et c'est paru aux éditions PUF. L'une des nombreuses raisons pour lesquelles je trouve ce livre excellent est une raison personnelle. Ma vie a tourné autour du voyage. J'ai commencé à voyager seul, j'avais 14 ans. Depuis, chaque année, je voyage, parfois très loin, parfois moins loin. Et je me suis un jour amusé à calculer que j'avais passé quasiment 10 années de ma vie à voyager. Je suis en plus de mon métier guide pour les touristes à Paris. Et l'une des raisons essentielles pour lesquelles j'ai choisi ce métier, c'était précisément pour demeurer dans une ambiance de voyage, puisque si moi, je ne voyageais pas en étant à Paris, en revanche, j'étais avec des gens qui, eux, étaient en plein voyage. Et je dois avouer que je n'avais réellement jamais lu de livre, ou du moins, je n'avais jamais prêté attention dans certains livres, sur les réflexions sur le voyage. Ou, quand j'ai lu des livres comme « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss ou « Équador » d'Henri Michaux, qui sont des livres où il y a une longue et très critique réflexion sur le voyage, ces réflexions m'avaient en général semblé déjà désagréables, puisqu'elles étaient critiques envers quelque chose que j'aimais profondément, et dénuées d'intérêt. Et puis, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, il y a un vrai problème avec le voyage qui est la pollution et l'abus de ressources qu'il engendre. Bien entendu, d'abord et avant tout, le transport aérien. Mais même le transport maritime, le voyage maritime peut causer d'énormes dégâts. La ville de Venise le sait très bien avec les grands navires de croisière qui crée en particulier ce qu'on appelle le moto ondoso, tout simplement le remous, qui abîme les millions de piliers sur lesquels reposent les bâtiments de Venise, et je ne parle pas des déchets que relâchent ces navires, tout simplement les déchets humains, les matières fécales, l'urine, les déchets de cuisine, etc., qu'ils laissent tomber dans la mer, autour ou tout près de Venise. On peut bien entendu aussi parler des dégâts causés par la congestion des lieux touristiques. Et là, ce sont des dégâts à la fois culturels, symboliques, émotionnels et tout à fait concrets. Et donc, maintenant que nous sommes une planète de plus de 8 milliards d'habitants, dont au moins 1 milliard peuvent voyager relativement facilement, et pour les plus riches d'entre eux, c'est-à-dire la vaste majorité des habitants des pays dits développés, peuvent voyager pour très peu cher par rapport à leurs revenus, se pose la question de est-ce qu'il faut continuer à voyager vu le coût environnemental du voyage. Le livre de Juliette Morris tombe donc à pic, parce qu'il s'agit de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on voyage. Et qu'est-ce que le voyage nous apporte à nous individus? Qu'est-ce qu'il peut éventuellement nous coûter à nous individus? Qu'est-ce qu'il apporte à la communauté? Et qu'est-ce qu'il coûte à la communauté? Et je dois reconnaître que ces aspects-là, j'y avais, pour ma part, fort peu pensé. Je ne pense pas être le seul à avoir négligé tout ceci. Je crois que Juliette Morris arrive, elle, à montrer qu'il y avait des aspects qu'il fallait creuser. Mais une autre chose que montre le livre de Juliette Morris, c'est qu'en réalité, le débat sur les voyages est tout à fait ancien. Et c'est là l'une des nombreuses surprises que la lecture de son livre m'a provoqué. J'en veux pour preuve son introduction. Ouvrez les guillemets. Il est nécessaire que je me justifie de ce que je voyage et de ce que je ne demeure jamais au même endroit, fermez les guillemets, écrivait en 1537 le médecin et philosophe Paracelse dans un texte intitulé « Défense à propos de mes voyages ». Souhaitant que personne ne lui tienne rigueur de ses vagabondages, il adressait à son lecteur cette question pour le moins surprenante. « En ai-je moins de valeur, même si j'étais le premier incommodé ? Comment penser que la valeur d'un individu pourrait avoir un lien avec le choix qu'il fait ou non de voyager ? Quel peut bien être l'enjeu moral d'une telle décision ? Le plaidoyer de Paracelse, consistant à s'excuser de voyager, a de quoi nous étonner. Or, loin de constituer un cas isolé, il inaugure pourtant ce qui prit la forme, dans l'Europe de la Renaissance et de l'âge classique, d'une véritable controverse. Car il était loin d'aller de soi que l'on pût partir en voyage pour le simple plaisir d'aller voir ailleurs, de changer d'air, et encore moins de se divertir. Les voyages pouvaient bien avoir pour raison le commerce, la guerre, la diplomatie, la religion, l'échange savant et la formation intellectuelle ou artistique, mais il était en tout cas fort peu envisageable de voyager pour voyager, et de s'adonner excessivement au voyage. L'argument du plaisir demeurait en fait un peu court. D'où la nécessité, sinon le devoir, de montrer l'utilité de ces pérégrinations en exposant les raisons qui les motivent. Ainsi parurent des centaines de textes, des méthodes pour bien voyager, des lettres de conseil aux jeunes voyageurs, de brefs essais ou des préfaces sur l'art de voyager utilement, visant à légitimer les déplacements géographiques non nécessaires, à les définir, et à les encadrer par une série de règles et de préceptes. Cette littérature, un peu oubliée de nos jours tant elle peut paraître étrange, s'est construite dialectiquement contre un discours implicite, communément admis, qui mettait en question les voyages, principalement contre l'objection de leur vanité, mais quelle est cette maladie qui condamne certaines personnes à s'agiter ainsi et à délaisser leurs proches et leur patrie ? Et contre l'objection de leur danger, à quoi bon prendre de tels risques? Et pourquoi s'infliger une telle peine et fuir le confort de la maison? Avec l'expansion des voyages touristiques au XIXe et XXe siècle, un changement de paradigme semble avoir eu lieu. Loin de concerner une élite particulièrement riche ou instruite, le voyage a fini par concerner une foule d'individus cherchant à se conformer à ce qui est devenu une nouvelle norme. Ce faisant, ce n'est plus l'utilité des voyages que l'on a cherché à mettre au jour, mais plutôt leur capacité à rendre les individus heureux. C'est même précisément l'inutilité du voyage, conçu comme loisir, qui a laissé croire qu'il pouvait être une condition du bonheur. Juliette Maurice continue un peu plus loin. Si certains voyages peuvent aujourd'hui paraître superflus, certains rétorqueront que l'on risque cependant d'y perdre à renoncer au voyage. Mais la question devient, que perd-on exactement à refuser de voyager ? Poser ainsi la question, c'est mettre en lumière le fait que ce qui est recherché dans un voyage excède toujours le voyage lui-même, et que la définition même de ce qu'est un voyage est en tout cas moins évidente qu'il n'y paraît. Est-il souhaitable de bannir tous les déplacements jugés non essentiels ? Mais alors de quels critères dispose-t-on pour déterminer l'utilité d'un voyage ? Or, penser la limite ou le degré à partir duquel un voyage sera légitime revient à poser des problèmes éthiques bien précis et surtout moins inédits qu'on ne le croit et que les anciens, s'ils n'avaient ni l'avion ni Internet, avaient déjà posé. Ce qu'on a parfois appelé dans l'Ancien Régime la question des voyages refait étrangement surface actuellement, dans un contexte inédit. Celles et ceux qui souhaitent continuer de voyager auront maintenant à charge de recourir à une nouvelle apologétique des voyages, dont les arguments semblent neufs, mais dont les enjeux sont fort anciens. Faut-il privilégier la connaissance du proche et du local, au motif que le lointain serait trop coûteux à connaître à tous égards ? Y a-t-il plus d'avantages ou d'inconvénients à voyager ? Enfin, qu'est-ce qu'une bonne raison de voyager ? L'actualité fait en outre ressurgir, avec une acuité remarquable, cette question traditionnelle dans l'histoire de la philosophie. Que signifie « habiter le monde » et comment habiter le monde ? D'un côté, pour le dire sans embâge, l'urgence climatique voudrait que l'on ralentisse le rythme des voyages, voire que l'on mette fin à nombre d'entre eux au motif que la planète, sans cette mutation, ne serait pas ou plus habitable. Mais d'un autre côté, la littérature viatique en témoigne, une des vocations principales du voyage pourrait être d'expérimenter ce que peut bien signifier habiter le monde. Le déplacement géographique n'est-il pas l'occasion pour un individu de se situer, de penser et d'éprouver sa propre existence et celle des autres ? Il ne sera pas question dans les pages qui suivent de prendre simplement parti pour ou contre les voyages, ou de déterminer la méthode et les conditions qui pourraient les rendre acceptables, mais plutôt de mettre en évidence des dynamiques morales et cognitives complexes, susceptibles de rendre lisibles tous les discours et toutes les postures idéologiques à leur propos. Thank you. Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité et sans le sou. N'oubliez pas, le cas échéant, de faire une petite donation. Et ce soir, le Proton se rebiffe parle d'un excellent livre, celui de Juliette Maurice, qui s'appelle « Renoncer au voyage, une enquête philosophique parue chez les Puffs ». Et nous passons maintenant de son introduction à quelque chose qui est rare dans les livres. Après son introduction, elle a un préambule. Bon, alors, lisons son préambule, qui se trouve être fort intéressant, et qui est page 29. Dans un texte prononcé devant la Royal Geographical Society de Londres à la veille de la Première Guerre mondiale, Rudyard Kipling annonçait les modifications profondes que les progrès de l'aéronautique feraient subir au voyage. Son discours établit un lien entre l'essor de l'aviation, susceptible d'introduire une grande discontinuité dans l'expérience du voyageur, et la perte des sensations physiques, en particulier des sensations olfactives, qui garantissaient jusqu'alors la continuité et la progressivité de cette expérience. Nous sommes en 1914, et Kipling demande à quoi ressemblera cette génération totalement ignorante de toutes les odeurs des voyages terrestres et marins, celle qui pénétrera dans les couches supérieures de l'air et en descendra sans être aucunement préparée par aucun de ses sens à la saveur qui est l'esprit du pays sur lequel elle descend. En réalité, Kipling semble surtout regretter le fait qu'avec l'avion, les contrées les plus reculées puissent devenir facilement accessibles. Que voudra dire voyager quand presque tout le monde pourra aller presque partout sans trop d'efforts? Ainsi se présente-t-il expressément comme l'un des derniers témoins d'une expérience sur le point de disparaître. L'aéronautique lui fait craindre qu'en ouvrant l'espace du voyage à une troisième dimension, le voyageur soit désorienté, ce qui modifiera radicalement, et pour le pire, notre concept même du voyage. Car se mouvoir dans cette troisième dimension, le ciel, reviendra pour lui à laisser nos esprits, porteurs d'une vieille tradition viatique, clopinant et boitant derrière nous. Que deviendront la distance, la hauteur et la profondeur, la séparation d'avec ceux qui nous sont chers, le mal du pays, la peur des accidents et le mauvais temps? Rendre les voyages plus faciles en gommant le problème de la distance reviendrait à perdre de vue ce qui est censé faire l'essence des voyages, l'effort, la fatigue, voire la souffrance. La contraction des distances est conçue comme une dénaturation du voyage, dont on estime qu'il doit résider dans l'expérience du cheminement et non dans celle du lieu. Kipling n'est du reste pas le seul écrivain voyageur à songer qu'un voyage se mérite ou doit avoir un prix. Pas le seul non plus à se préoccuper de son éthos d'écrivain aventurier. Enfin, il est loin d'être le seul à annoncer la fin des voyages. Il y a là un paradoxe commun dans la littérature de voyage. Kipling, se présentant comme un témoin privilégié de ce qu'est l'expérience authentique du voyage, est en réalité d'une grande banalité. Les grands voyageurs, disons plutôt ceux dont on a retenu le nom, ont bizarrement en partage cette illusion d'être porteur d'une tradition ou d'un art du véritable voyage voué à disparaître avec eux. Cette nostalgie égocentrique, mêlée de conservatisme, s'inscrit de façon assez systématique dans un discours hostile au progrès technique des moyens de locomotion. L'accélération et la facilitation des déplacements ont toujours été redoutées, comme si la lenteur était par elle-même gardienne d'une vérité et porteuse de valeurs. Un exemple parmi d'autres. Alfred de Vigny, déplorant la vitesse incroyable de ces lignes de fer qui avancent telles des flèches et font que le voyageur ne respire et ne voit dans toute la nature qu'un brouillard étouffant que traverse un éclair. Ça, c'est moi qui le dis. Il parle du train. Laissant libre cours à la modalité du « ne plus », typique de la rhétorique de la fin des voyages, Le poète regrette la perte d'une expérience de la locomotion plus lente et donc plus authentique suivant l'équation habituelle. Juliette Maurice cite ici Alfred de Vigny. On n'entendra jamais piaffer sur une route le pied vif du cheval sur les pavés en feu. Adieu, voyage lent, bruit lointain qu'on écoute, le rire du passant, les retards de l'essieu, les détours imprévus des pentes variées. De quoi laisser songeur ceux qui font aujourd'hui l'éloge du temps long des voyages en train. Si le XIXe siècle, avec la machine à vapeur et la multiplication des voies ferrées, est celui de l'invention de la vitesse et de la réduction des distances, cette nostalgie de la lenteur a pourtant perduré jusqu'aujourd'hui. Et là, je vais faire quelque chose que jusqu'à présent, je n'ai encore jamais fait dans toutes ces émissions où je lis des livres. Le livre, le volume que j'utilise du livre de Juliette Maurice, Renoncer au voyage, je l'ai acheté d'occasion, et un lecteur précédent ou une lectrice précédente a mis quelques notes. Et là, mon prédécesseur a laissé une note extrêmement simple et qui est très éclairante et un peu absurde. Il dit « vitesse égale touriste, lenteur égale voyageur ». Alors il a bien raison de, il ou elle a bien raison de le mettre, mais c'est un fait que on se pose à ce moment-là la question, et c'est quelque chose qui va revenir souvent dans le livre de Juliette Maurice. Oui, instinctivement, on a tendance à dire « le méchant, le mauvais, l'imbécile, c'est le touriste qui va trop vite », et on ne manque pas de millions, voire de milliards d'exemples. Le bon voyageur, la personne noble, se livrant à une activité noble, eh bien, ce qui caractériserait le voyageur, c'est la lenteur. Et là, le problème est évident. À quel moment est-on lent? À quel moment est-on rapide? Car, de nos jours, le train est devenu le symbole du voyage lent, l'avion celui du voyage rapide. Mais tout de même, par exemple, on va de Paris à Milan en 10 heures de train, ce qui est incroyablement rapide. On va de Paris à Berlin, je crois, en 12 ou 13 heures. C'est sûr, en avion, on va de Paris à Milan en 1h30. Mais donc, de là à dire que qui prend le train est un voyageur lent, à opposer au touriste trop hâtif qui prend l'avion, on voit bien qu'il y a là un petit problème. Et que, par exemple, s'il s'agissait d'aller de Paris à Milan à pied, on parlerait là d'un voyage qui prendrait au moins un bon mois. Donc cette équation, cette différenciation entre touriste trop rapide et voyageur lent, elle est extrêmement intéressante, mais elle est extrêmement difficile à tenir. Nous en arrivons donc à la première partie de l'ouvrage de Juliette Maurice, ce qui commence à la page 51. Historiquement, les enjeux soulevés par la pratique des voyages ont toujours été à la fois descriptifs, qu'est-ce qu'un voyage, et normatifs, faut-il voyager ou qu'est-ce qu'un bon voyageur. Cette corrélation de l'être et du devoir-être se manifeste dans la notion de vrai voyage que l'on retrouve systématiquement sous la plume de celles et ceux qui ont tâché d'en produire la théorie ou d'en régler la pratique. Ainsi, penser le voyage reviendrait d'abord à penser les voyages ratés, les mauvais voyages, les pseudo-voyages, comme s'il fallait toujours opposer une vérité du voyage à ses abus et à ses malfaçons. Cette tendance doit pourtant nous alerter. En appeler sans cesse à cette supposée vérité du voyage ou à une idée du voyage, n'est-ce pas avouer que l'on n'a jamais affaire en réalité qu'à des simulacres de voyage et ouvrir la possibilité qu'aucun vrai voyage n'existe? On pourrait alors, pour tâcher de définir ce qu'est un voyage, se contenter de l'expérience ordinaire et poser simplement la question « Quand sait-on que l'on voyage ?» encore faut-il s'entendre, sur les critères permettant de répondre à une telle question. Le voyage est un concept élastique et vague. Voyager reviendrait à parcourir une certaine distance pendant un certain temps pour aller vers un lieu relativement éloigné et éventuellement en revenir. C'est du reste ce qu'indiquent les dictionnaires. En français, le terme « voyage », attesté vraisemblablement depuis la chanson de Roland au XIe siècle, n'implique assez tardivement sa signification compréhensive. Et ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que le terme « voyage » a pris cette signification de « déplacement d'une personne qui se rend en un lieu assez éloigné ». Un premier critère définitoire pourrait donc être celui de la distance ou de l'éloignement géographique. Voyager reviendrait à se déplacer vers un lieu assez éloigné. Mais quelle est la distance minimale à parcourir pour dire que l'on a voyagé ? Il conviendrait de distinguer la notion de voyage à la fois de celle de promenade et de celle d'errance, ces deux notions représentant une double polarité sur l'échelle d'une supposée juste distance à parcourir. En effet, je dirais difficilement qu'une promenade à pied dans un périmètre d'un kilomètre autour de chez moi constitue un voyage, l'éloignement étant insuffisant pour que l'espace parcouru ne soit plus perçu comme familier. Mais il sera aussi difficile de dire que le vagabond ou le nomade font un voyage dans la mesure où, en l'absence d'un point d'ancrage, il devient impossible de penser l'éloignement. On pourrait poser la question autrement et se demander par exemple si Phileas Fogg a vraiment voyagé ou en quel sens il a vraiment fait un tour du monde en 80 jours. Ce voyageur pressé de Jules Verne a employé presque tous les moyens de transport imaginables, paquebots, railways, voitures, yachts, bâtiments de commerce, traîneaux, éléphants. Mais il a circulé aveuglément, ne s'est pas intéressé au monde qu'il a parcouru, déléguant cette tâche à un valet flâneur et curieux qui ne s'est pas cru, quant à lui, obligé à ne pas en voir, mais à qui la vitesse a donné l'impression de voyager en rêve. Osons une comparaison anachronique. On trouvera en tout point opposé au personnage fictif de Phileas Fogg, symbole du voyageur efficace à l'exactitude mathématique, le voyageur Montaigne, bien réel quant à lui, qui voyagea vers l'Italie pendant 18 mois, en s'autorisant détours, erreurs et improvisations, et pour qui le cœur du voyage résidait dans le mouvement lui-même, mouvement qui ne lui interdit d'ailleurs pas la station intermittente. Ouvrez les guillemets. S'il fait lait à droite, je prends à gauche. Si je me trouve mal propre à monter à cheval, je m'arrête. Fermez les guillemets. Et s'il avait quelque chose à voir derrière lui, le voyageur peut bien retourner sur ses pas dès lors qu'il, ouvrez les guillemets, ne trace aucune ligne certaine, ni droite ni courbe. Fermez les guillemets. Ces deux figures, mises côte à côte, nous adressent la même question. Qu'est-ce qu'un voyage réussi ? Celui que l'on effectue en temps et en heure et qui permet accessoirement de remporter un pari absurde ? Ou celui qui fait place à l'aléatoire et n'a pas de but bien défini ? Celui qui se déroule sans encombre, au risque de susciter l'ennui ? Ou celui qui fait place aux déconvenus possibles, au risque de susciter le regret ? Montaigne souhaitait dans ses essais que nous apprenions par les voyages à, ouvrez les guillemets, frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui, fermez les guillemets, suivant une formule devenue célèbre. Par une coïncidence curieuse, les premiers chapitres du Tour du monde en 80 jours présentent ainsi Phileas Fogg, ouvrez les guillemets. Il savait que dans la vie, il faut faire la part des frottements. Et comme les frottements retardent, il ne se frottait à personne, fermez les guillemets. Question inattendue que celle de savoir quelle place le voyage doit faire au frottement. Là, je prendrai un peu la parole. J'adore cette phrase, puisque je dois confesser que pour ma part, et je présume pour la part d'un très grand nombre de voyageurs, peut-être plus souvent masculins, mais certainement plein de voyageuses aussi, les frottements sexuels sont un des buts du voyage. Je ne veux pas là parler de tourisme sexuel, une chose assez abominable, mais tout simplement, quand je suis parti à l'aventure à 14 ans, très honnêtement, j'espérais bien que je me frotterais et qu'on me frotterait. Bon, ça n'est pas arrivé, c'est arrivé un an plus tard. C'est pas grave. Mais cette idée de frottement, elle me semble essentielle. On voyage, oui, pour se frotter à autre chose. Et d'ailleurs, c'est l'un des... Ça viendra plus tard dans le livre de Juliette Morris. L'un des problèmes du tourisme industriel massif d'aujourd'hui, c'est précisément le peu de frottement. Ce sont des voyages, ce sont des déplacements qui ne laissent pas le temps de se frotter à la mentalité différente d'autrui, aux règles différentes d'autres lieux, pas assez de temps pour se frotter aux cuisines différentes. Je sais également que, par exemple, les touristes chinois insistent lourdement pour ne manger que chinois, même dans ce que les Français croient être la Mecque de la gastronomie mondiale, la France. Alors qu'inversement, d'ailleurs, les touristes japonais, eux, insistent pour surtout ne pas manger japonais et déguster le plus grand nombre de cuisines possible. Mais ce mot de frottement, moi, me plaît beaucoup et me semble définir le voyage comme personnellement je l'aime. Mais je voudrais continuer, j'en suis à la page 57 du livre de Juliette Morris. Certains voyageurs ne veulent donc pas être retardés quand d'autres aiment s'attarder partout. Mais combien de temps faut-il s'éloigner de chez soi pour dire que l'on a voyagé? Oui, un autre critère pourrait être celui de la durée. Je peux sortir de mon pays sans vraiment voyager. Si je fais un aller-retour entre Paris et Londres dans la journée pour un rendez-vous professionnel, puis-je dire que j'ai voyagé? Pour l'Organisation mondiale du tourisme, un touriste est un voyageur qui passe la nuit. Il est une sous-catégorie du voyageur, défini comme une personne qui se déplace entre des lieux géographiques différents dans un but et pour une durée quelconque, fermez les guillemets. Un voyage étant alors conçu comme un déplacement aller-retour depuis son lieu de résidence. Il y aurait donc une limite minimale, disons 24 heures. Quelle serait la limite maximale? Si je pars et m'installe à Londres pendant une vingtaine d'années, on dira que je ne me suis pas contenté d'y voyager, mais que j'y ai habité. Là encore, on suppose que le voyage occupe un point médian sur une échelle temporelle et se conçoit comme un éloignement momentané ou raisonnable depuis un chez-soi. Voyager reviendrait à partir de sa maison suffisamment longtemps, mais pas au point de prendre racine ailleurs. C'était les Barricades mystérieuses de François Couperin, interprétées à la guitare par Raphaël Feuillâtre. Une excellente interprétation, à mon sens. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. C'est toujours, le Proton se rebiffe et nous continuons à parler du très 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 bon livre de Juliette Maurice, « Renoncer au voyage, une enquête philosophique » paru chez Les Puffs. Page 58, voici ce qu'écrit Juliette Maurice. « Pour dépasser ces difficultés, on peut se mettre en quête de critères de définition qualitatifs que l'on tâcherait de dénombrer et de doser comme autant d'ingrédients permettant de fabriquer un voyage, un peu de liberté, un peu d'ailleurs, un peu d'action, mais en quelle proportion? Le premier ingrédient serait la liberté. Les voyages non nécessaires, conçus comme des déplacements géographiques entrepris sans contrainte, sont censés procéder d'une libre décision de partir. En même temps, cette liberté doit être conjuguée à la nécessité du retour chez soi. Un voyage animi gratia, comme on disait au XVIe siècle, c'est-à-dire librement entrepris pour le plaisir, suppose que l'on oriente son trajet vers sa propre fin et que l'on envisage d'y mettre un terme. C'est ce qui permet de distinguer le voyage du vagabondage sans limite, dont l'apparente liberté est illusoire, mais aussi de le distinguer de l'exil forcé. Les premiers auteurs d'art de voyager définissait le voyage comme relevant d'un effort entrepris pour voir et visiter des pays étrangers. C'est dire qu'il procède d'une application et d'une peine à laquelle on se plie volontairement, le paradoxe s'immisçant précisément dans ce degré de consentement à la peine. Mais alors on retombe sur un problème de mesure. Le voyage ne doit relever ni du pur otium, du moins c'est ainsi qu'on envisageait les choses avant l'apparition du tourisme de loisirs, précisément, ni du pur négotium, c'est-à-dire du travail ou de la tâche. Dire qu'il s'agit d'un effort librement entrepris dans le but d'aller voir des contrées étrangères, c'est ajouter que le voyage se définit par son objet. Il ne s'agit pas de n'importe quel mouvement dans l'espace, mais du mouvement vers un ailleurs. Pour qu'un voyage ait lieu, ne doit-il pas en effet y avoir matière à voyager? On pourrait supposer que l'on sait que l'on voyage quand on franchit une frontière. Dans Espèce d'espace, en 1974, Georges Perec envisageait de la sorte la notion de frontière. Passer une frontière est toujours quelque chose d'un peu émouvant, une limite imaginaire matérialisée par une barrière de bois qui d'ailleurs n'est jamais vraiment sur la ligne même qu'elle est censée représenter. Cela suffit pour tout changer, et jusqu'au paysage même. C'est le même air, c'est la même terre, mais la route n'est plus tout à fait la même. La graphie des panneaux routiers change. Les boulangeries ne ressemblent plus tout à fait à ce que nous appelions, un instant avant, boulangerie. Les pains n'ont plus la même forme. Ce ne sont plus les mêmes emballages de cigarettes qui traînent par terre. Je reprends la parole pour dire ici, avec à la fois amusement et tristesse, que ce texte de Georges Perec, à présent en 2025, n'importe quel voyageur voit qu'il est souvent faux. La graphie des panneaux routiers est presque la même dans toute l'Union européenne, en tout cas. Les boulangeries commencent à se ressembler et les emballages de cigarettes, hélas, de ce poison en boîte, sont les mêmes partout. Reprenons le texte de Juliette Maurice. La frontière comme ligne dessinée dans l'espace est ce qu'il y a de plus magiquement irréel. C'est d'abord une ligne sur une carte. Et de plus tragiquement réel. Des millions d'hommes sont morts à cause de ces lignes. Perec suggère de façon intéressante que le franchissement de la frontière est une expérience étrange de la discontinuité dans la continuité, où tout change et où rien ne change. Ce qui la rend particulièrement insaisissable et difficile à penser. Mais la frontière ici désignée est implicitement celle du pays. Or, on pourrait supposer qu'il suffit de commencer à percevoir un espace comme un ailleurs pour voyager. Ce qui peut bien arriver après tout au moment où l'on franchit les frontières de sa région, de sa ville, de sa maison, ou même de sa chambre. Celui qui reste enfermé chez lui verra très vite l'espace extérieur comme non familier et probablement effrayant. À l'inverse, celui qui erre sans cesse à travers le monde aura tendance à se sentir partout chez lui. La littérature regorge de personnages incarnant ses extrémités éthiques. Le poltron contre le téméraire, le voyageur casanier contre l'aventurier intrépide, le sage sédentaire contre le fou vagabond, etc. Là, je vais ajouter le hikikomori. Le hikikomori, ce sont ces Japonais, et d'ailleurs maintenant il n'y a pas que des Japonais qui font ça, mais ce sont ces Japonais qui, souvent à partir de l'adolescence, littéralement, explicitement, concrètement, ne sortent plus de chez eux. Ils ne mettent plus le pied dehors. Point. Il s'agit très souvent d'adolescents qui abusent de la générosité, souvent d'une mère solitaire, et qui passent l'intégralité de leur vie à l'intérieur, parfois même de leur chambre, sans même sortir dans le reste de l'appartement, et on sait que les appartements et les maisons japonais, les maisons au Japon, ça n'est pas très grand. Il peut aussi y avoir, dans certains cas, ça peut être aussi des hommes qui ont un travail qui leur permet de rester chez eux, ou qui ont d'une manière ou d'une autre un revenu qui leur permet de rester chez eux, et qui ne sortent jamais. Il y a eu des livres excellents et tragiques au sujet de ces personnes. Je reprends ce qu'écrit Juliette Maurice. Dans la famille des voyageurs en chambre, on trouvera par exemple Xavier de Maistre, qui invitait son lecteur à la toute fin du XVIIIe siècle à penser que l'on peut trouver de l'ailleurs dans une chambre et arpenter celle-ci comme un explorateur arpenterait le monde. Dans la même veine, on mentionnera le cas du personnage des Essaims dans À rebours de Huysmans, qui fait de sa salle à manger une cabine de navire au désordre apprêté et se procure, ouvrez les guillemets, en ne bougeant point, les sensations rapides, presque instantanées, d'un voyage au long cours, fermez les guillemets, le mouvement lui paraissant inutile et l'imagination pouvant aisément suppléer à la vulgaire réalité des faits. C'était Strike the Vinyl de Henry Purcell. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Le Proton se rebiffe ce soir parle de l'excellent livre de Juliette Maurice, Renoncer au voyage, une enquête philosophique parue aux éditions PUF. Et je voudrais couronner ce petit compte-rendu de cet excellent livre par son chapitre 12, page 213, qui m'a fait beaucoup sourire parce qu'il soulève un vieux problème de critique, non pas tant du voyage que du voyageur. Et vous allez tout de suite comprendre quel est ce problème avec le titre du chapitre « Le voyageur est un menteur ». Et j'ai indiqué au début de l'émission que personnellement, j'ai beaucoup voyagé. Et en plus, au moins 4 de mes livres, en fait peut-être carrément 5, et il y en a un en plus en préparation, sont des livres qui sont nés grâce à des voyages. Un sur Récit Christiania, c'est un très long voyage, puisque d'ailleurs c'est une série de voyages, puis une résidence, puis encore un voyage. Et d'autres, comme mon livre sur le Japon ou mon livre sur Dubaï, qui sont des voyages. Et, comme le dit Juliette Maurice, que le voyageur soit suspecté de produire du mensonge, de mentir, et de se mentir, c'est un sujet de polémique récurrent dans l'histoire de la littérature de voyage. Bref, comme auteur de livres de voyage, je me sens obligé, mais en fait ravi, de lire ce chapitre du livre de Juliette Maurice. Pour des raisons à la fois éthiques et épistémiques, le voyageur n'a en fait pas vraiment le choix. Il est peut-être même contraint de mentir deux fois, pendant et après son voyage. Car il existe un type de mensonge lié à la pratique même du voyage, c'est-à-dire à la conduite adoptée par le voyageur dans la durée de son itinérance, et un type de mensonge lié au fait que tout voyage ait vocation à prendre la forme d'un récit. Dans le premier cas, on parlera davantage de prudence, de dissimulation, de secret, de travestissement, voire de clandestinité. Et il n'est pas nécessaire de penser immédiatement au récit d'espionnage ou au voyage incognito. Si tout voyageur fait face à la question de savoir comment se comporter quand il n'est pas chez lui, il rencontre, consciemment ou non, un certain nombre de problèmes éthiques, plus généralement liés aux notions de politesse et de civilité. Dans le second cas, on parlera plutôt d'affabulation, de tromperie, voire de canular. Car l'éloignement spatio-temporel produit un double effet. Il empêche que le voyageur soit immédiatement contredit et cause en retour des effets psychologiques pouvant entraîner une distorsion de la réalité, omission, tendance à l'exagération ou à l'approximation, ou pure invention. Le proverbe, ouvrez les guillemets, « à beau mentir qui vient de loin », fermez les guillemets, qui apparaît au début de l'âge classique, résume l'idée en peu de mots. Si le voyageur était ailleurs, il a par définition un alibi. Qui pourra donc le démentir ? Et là, je reprends la parole. Je dois avouer, non pas que j'ai menti dans mes livres, en tout cas, je n'ai absolument pas essayé de mentir consciemment. Évidemment, les livres que j'ai écrits sur les lieux que j'ai visités sont par définition incomplets, puisque je ne suis ni omniprésent, ni omniscient. Mais là, Juliette Maurice touche un problème ou un bonheur très intéressant. Je m'explique. Quand je suis allé à Christiania, quand je me suis installé à Christiania, mais déjà même avant, quand je ne faisais que la visiter, j'avais 19 ans, un âge où on change de personnalité assez souvent, et il m'est arrivé un grand bonheur. J'étais libéré de la personne que j'étais en France. En France, j'étais un gamin très brillant à l'école et qui se définissait principalement par son succès scolaire, par l'abondance de ses lectures, par tout un tas de vertus intellectuelles. Et, soyons modestes, par, on va dire, le bon usage que je pensais faire de ma langue maternelle, le français. Et puis me voilà projeté dans ce lieu au Danemark où quasiment personne ne parle français, où les gens parlent danois, une langue qu'au départ je ne parle pas, et sans ça qui parle anglais. Une langue qu'à l'époque je commençais à maîtriser, mais où je ne peux pas dire que je me montrais particulièrement brillant. Et puis, tous ces gens christianiens ne savaient rien de moi. Et mon passé n'avait rien qui puisse, a priori, intéresser qui que ce soit là-bas, ce dont j'étais parfaitement conscient. Et j'ai très vite, très profondément, très joyeusement, ressenti cela comme une libération. J'étais devant chaque personne avec une tabula rasa. Chaque personne ne savait, aucune personne ne savait qui j'étais, et je pouvais donc me présenter un peu comme je voulais. Alors quand je veux dire comme je voulais, ça ne veut pas dire que par exemple je disais que j'étais sénégalais et non pas français, ou portugais ou pas français, ou je disais que j'étais plombier mais que je n'avais pas envie de pratiquer mon métier. Non, non, non. Je ne mentais pas. Mais je ne me comportais pas comme je le faisais en France. Et ceci était une grande joie. Mais en même temps, c'était un mensonge, puisque je ne présentais pas délibérément tout un aspect de moi. Et de temps en temps, ça m'a même fait rire. Un jour, je visite un musée à Copenhague, très joli musée qui s'appelle... Alors j'ai oublié, mais enfin bref, c'est une collection d'art principalement oriental. Tout petit musée. Et puis, à ma grande surprise, tout d'un coup, pendant que je le visite, je tombe sur quelqu'un que j'avais vu à Christiania. Et j'avais donc, je ne sais plus à ce moment-là, cette visite-là, j'avais peut-être 21 ans. Cette personne, elle avait facilement 45 ou 50 ans. On se connaissait juste de vue. On se connaissait de vue bien, mais juste de vue. On ne s'était jamais parlé l'un à l'autre. Et ce monsieur me dit « Ah, mais c'est très bien que tu sois dans ce musée. Tu veux retrouver ta culture. » Oui, parce que j'ai encore l'aspect d'un arabe. Et donc, dans ce musée d'art oriental, il était parfaitement logique de déduire de ma présence solitaire que j'étais un jeune arabe qui, en France, se sentait coupé de sa culture natale ou ancestrale et qui profitait d'être au Danemark pour aller dans un musée où il y avait énormément d'objets arabes. Donc c'était parfaitement logique de sa part d'imaginer cela. Et je dois avouer que ça m'a fait beaucoup rire, que je me suis bien gardé de décevoir la bonne opinion que cet homme faisait de moi et de mon acte de la visite du musée. Et ça m'a appris beaucoup de choses sur, effectivement, ce mensonge obligatoire qu'en un sens, tous les voyageurs sont obligés de commettre quant à qui ils sont. Mais revenons-en au texte de Juliette Maurice. Page 217, elle écrit « La propension du voyageur à la bigarrure, au déguisement et au mensonge a fini par être littéralement diabolisé. Philosophes et théologiens des périodes médiévales et modernes conçoivent volontiers le voyageur comme un errant, et donc comme un être impie. La figure du voyageur menteur devient, en perspective chrétienne, beaucoup moins héroïque. Et la ruse que le voyageur est susceptible de déployer se voit associée à une forme d'orgueil, voire de malice. Plusieurs passages de la Bible rapprochent explicitement le viatique du diabolique. C'est un aspect que rappellera par exemple Lamothe le Veillé au milieu du XVIIe siècle, lorsqu'il dénombrera, de façon certes parodique pour ce qui concerne le philosophe libertin qu'il était, toutes les raisons que l'on a de considérer le voyage comme vain et inutile. Que, par exemple, ceux qui ont le plus couru de pays mentent avec toutes sortes d'impudence, Ne le tiennent-ils donc pas de l'ennemi de notre salut ? Aussi mentionne-t-il ce qui était alors devenu un topos de la rhétorique dénonçant la vanité des voyages, en s'appuyant sur les Écritures et en montrant que, ouvrez les guillemets, pour tout ce qui touche l'autorité divine, on ne saurait nier qu'elle soit très expresse contre les voyages. Le Veillé prend un malin plaisir à citer l'autorité biblique en rappelant par exemple que l'on trouve au début du livre de Job l'idée qu'il est, ouvrez les guillemets, tout à fait diabolique d'aller par le monde comme font ces grands voyageurs, fermez les guillemets. En effet, Dieu ayant demandé à Satan d'où il venait, ce dernier ne lui avait-il pas répondu qu'il avait été se promener par toute la terre et faire le tour de son globe ? À la figure du rusé Ulysse se voit alors préférée celle de l'homme sédentaire dénué de mensonges et d'artifices. Dans la Cité de Dieu, saint Augustin oppose la ruse d'Ésaü, le voyageur, à la simplicité, à l'absence de feinte ou à ce qu'il appelle l'aplasticité, A-P-L-A-S-T-I-C-I-T-E, accent aigu, de Jacob. Ouvrez les guillemets. Ésaü était un homme expérimenté qui courait la campagne, mais Jacob était un homme simple et demeurant à la maison. Fermez les guillemets. Il s'interroge lui-même sur le sens de ce terme aplastos, signifiant à la fois simple et sans ruse, c'est-à-dire incapable d'user de feinte et de mentir. Pour un humaniste comme Erasme, que l'on associe pourtant communément et sans doute un peu trop immédiatement à un idéal du voyage, cette représentation est encore prégnante tout au début du XVIe siècle. Le voyage implique le déploiement d'une série d'artifices, d'exubérances et de mensonges, opposés en tout point à cet idéal chrétien de simplicité. À ses yeux, la faute du voyageur est double. D'une part, le voyageur fait bien souvent preuve d'impiété pendant son voyage. C'est notablement le cas des pèlerins, qui font mine d'aller se recueillir au nom de la religion, mais ne songent en réalité qu'à s'amuser un peu. Mais cette impiété est aggravée par le fait que, de retour chez lui, le voyageur trompe les autres en agrémentant de forts mensonges le récit de son voyage, et trouve même un plaisir malicieux à écouter les autres parler en retour de choses qu'ils n'ont pourtant pas vues. Je souhaite terminer cette émission par deux poèmes et une citation. Les deux poèmes sont à mon sens les deux plus beaux poèmes de la langue française, et mon jugement est là-dessus certainement biaisé par le fait que ce sont deux poèmes qui parlent du voyage. Le premier poème, c'est « Le bateau ivre » de Rimbaud. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit ces tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marais, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus, et les péninsules des marais n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant. La tempête a béni mes éveils maritimes. Plus léger qu'un bouchon, j'ai dansé sur les flots qu'on appelle rouleurs éternels de victimes, 10 nuits, sans regretter l'œil niais des falots. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Et dès lors, je me suis baigné dans le poème de la mer infusée d'astres et lactescent, dévorant les azurs verts, où, flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, où, teignant tout un coup les bleuités, des lias et rythmes lents sous les rutilements du jour, plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amères de l'amour. Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes et les ressacs et les courants, je sais le soir l'aube exaltée, ainsi qu'un peuple de colombes, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. J'ai vu le soleil bas taché d'horreurs mystiques, illuminant de longs figements violets, pareils à des acteurs de drames très antiques, les flots roulant au loin, leurs frissons de volet. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisé montant aux yeux des mers avec lenteur la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. J'ai suivi des mois pleins, pareil aux vacheries hystériques, la houle à l'assaut des récifs, sans songer que les pieds lumineux des maris puissent forcer le mufle aux océans poussifs. J'ai heurté, savez-vous, d'incroyables florides, mêlant aux fleurs des yeux de panthère à peau d'homme. Les arcs-en-ciel tendus comme des brides sous l'horizon des mers à de glauques troupeaux. J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses ou pourries dans les joncs tout un léviathan, des écroulements d'eau au milieu des bonasses, et les lointains vers les gouffres cataractants. Glaciers, soleil d'argent, flots nacreux, cieux de braise, échouages hideux au fond des golfes bruns, où les serpents géants dévoraient des punaises choix, des arbres tordus avec de noirs parfums. J'aurais voulu montrer aux enfants ces dorades du flot bleu, ces poissons d'or, ces poissons chantants. Des écumes de fleurs ont bercé mes dérades, et d'ineffables vents m'ont ailé par instants. Parfois, martyr lassé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux, montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes, et je restais, ainsi qu'une femme à genoux. Presqu'île, ballottant sur mes bords les querelles et les fientes d'oiseaux clabaudeurs aux yeux blonds. Et je voyais, lorsqu'à travers mes liens frêles, des noyés descendaient dormir, à reculons. Or moi, bateau perdu sous les cheveux des anses, jeté par l'ouragan dans les terres sans oiseaux, moi dont les monitors et les voiliers des anses n'auraient pas repêché la carcasse ivre d'eau, libre, fumant, monté de brume violette, moi qui trouais le ciel rougeoyant comme un mur qui porte, confiture exquise au bon poète des lichens de soleil et des morves d'azur, qui courait, taché de lunules électriques, planche folle, escortée des hippocampes noirs, quand les juillets faisaient crouler à coups de trique les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs, moi qui tremblais, sentant geindre à 50 lieues le rude des béhémotes et les maelstroms épais, fileur éternel des immobilités bleues, je regrette l'Europe aux anciens parapets. J'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce en ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs? Mais vrai, j'ai trop pleuré. Les aubes sont navrantes. Toute lune est atroce et tout soleil amer. L'âcre amour m'a gonflé de torpeurs enivrantes. Oh que ma quille éclate, oh que j'aille à la mer! Si je désire une eau d'Europe, c'est la flash, noire et froide, où vers le crépuscule embaumé, un enfant accroupi plein de tristesse lâche un bateau frêle comme un papillon de mai. Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô lames, enlever leur sillage aux porteurs de coton, ni traverser l'orgueil des drapeaux et des flammes, ni nager sous les yeux horribles des pontons. Le deuxième merveilleux poème que je souhaite lire, c'est « L'invitation au voyage » de Baudelaire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux, brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants, polis par les ans, décoreraient notre chambre. Les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme, en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants revêtent les champs, les canaux, la ville entière d'hyacinthe et d'or. Le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et enfin, dans la conclusion de l'excellentissime livre de Juliette Morris, Renoncer au voyage, une enquête philosophique, une citation, inattendue, de Chateaubriand. Ouvrez les guillemets. Tout se réduit souvent pour le voyageur à échanger dans la terre étrangère des illusions contre des souvenirs. Belle citation. Et je vous recommande donc extrêmement vivement la lecture du livre de Juliette Morris. C'était Le Proton se rebiffe. Je vous retrouve tous les troisièmes lundis du mois, de même que les premiers lundis du mois avec les Mus s'amuse, les deux émissions ayant lieu toutes les deux à 21h. Excellente soirée à tout le monde. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité, et c'est Le Proton se rebiffe, une émission sur les savoirs scientifiques et notamment l'écologie.